Vous écoutez On lit pour vous.
Un plafond de verre dans les arts pour les communautés culturelles. Un texte de Jean-Louis Bordelot, paru le 31 décembre 2024 dans Le Devoir. Le récit est chinois, l'interprétation en français. Créée en 2024, la pièce de théâtre Le Roi des singes a été jouée 3 fois au Québec et depuis, c'est le calme plat au calendrier 2025 des représentations. Aurore Liang, conceptrice de cette œuvre qui mélange les arts d'ici et d'ailleurs, constate que derrière les grands discours d'ouverture à la diversité, un plafond de verre attend les artistes qui tentent de mélanger les cultures. Les comédiens sont cette fois reconnaissables dans un local de répétition de Villeray. Les costumes et le maquillage camouflaient ces interprètes des pieds à la tête lors de la première représentation montréalaise de la pièce quelques jours plus tôt. L'équipe, d'une 20aine de personnes en tout et de 6 nationalités différentes, ne sait pas quand ils pourront remonter sur les planches, déplore Aurore Liang, malgré plus d'un an de préparation. On sait ce qu'on est. On sait qu'on est bon. J'entends l'applaudissement du côté québécois. J'entends l'applaudissement du côté chinois. Ça montre que tout le monde aime notre travail. On a monté notre propre sauce. Dans cette pièce aux allures de commedia dell'arte orientale, la dramaturge joue le rôle de narratrice. Elle déclame pendant plus d'une heure un classique de littérature chinoise dans un français soutenu avec des ombres chinoises et une harpe guzheng pour ambiance. Cet art en fusion n'a pas été adopté par les diffuseurs ou les organismes subventionnaires, se désole-t-elle, peut-être à cause d'un professionnalisme mal compris. Dans le grand environnement, on dit qu'on soutient la diversité et l'immigration, mais pour nous, quand on arrive au micro-environnement, les gens se demandent « Est-ce que j'arrive à remplir la salle? Est-ce que les gens vont aimer? Est-ce que les Chinois parlent français? Est-ce qu'on arrive à comprendre? » Ça fait des siècles et des siècles qu'on ne comprend rien sur la culture chinoise. J'ai l'impression que c'est tellement énorme. C'est tellement gros. Est-ce qu'enfin l'équipe peut arriver à faire comprendre ça? Le gros défi de mélanger les genres. Le français n'est pas la langue maternelle de Madame Liang. Elle ne possède pas de formation en théâtre. Oiseau rare dans une diaspora qui se destine plus traditionnellement à la médecine, au droit, l'ingénierie ou à des métiers libéraux, elle a décidé de s'associer avec des artisans québécois pour arrimer ces deux cultures. Elle a requis l'aide d'un auteur pour adapter le texte, puis d'un professeur d'interprétation de l'Université Concordia, Robert Reed, pour la mise en scène. Ce dernier le reconnaît, il lui a fallu au début quelqu'un pour lui chuchoter à l'oreille les référents culturels pour bien comprendre ce qu'il regardait. « Je suis vraiment une très bonne personne qui peut aider les gens à comprendre le théâtre chinois, parce que j'étais comme n'importe qui n'a pas aimé », laisse-t-il tomber. Son parcours à lui l'a mené en Chine, à Pékin même, pour s'initier à ces mystérieux codes orientaux. Idem pour l'actrice principale de la pièce, Michelle Yang, qui détient une formation complète en opéra de Pékin. Rendre ce monde lointain accessible à un public d'ici a été un gros défi pour Aurore Liang. On aime beaucoup la tradition. On veut recevoir un certain héritage culturel, mais on veut aussi en même temps ajouter un côté de modernité, ajouter ce qu'on comprend, nous, les gens du jour. Elle clame avoir la seule équipe à avoir monté ce type de spectacle au Québec. Il y a tout de même la compagnie de danse Shen Yun qui promeut l'art traditionnel chinois. Cette dernière troupe, basée aux États-Unis, s'éloigne du mélange des genres qui pourrait intéresser autant le public québécois que les membres de la diaspora chinoise, soupèse la comédienne et réalisatrice. Les sino-québécois réalisent et consomment leurs propres produits culturels, mais dans leur coin, pointe l'artiste à tout faire. Il y en a des pièces de théâtre qui existent dans la communauté chinoise. Leurs affaires, des fois, ce n'est pas d'un niveau si professionnel, ou bien c'est communautaire, c'est entre la communauté. C'était « Un plafond de verre dans les arts pour les communautés culturelles », un texte de Jean-Louis Bordelot, paru le 31 décembre 2024 dans « Le Devoir ».
Notre société des postes. Un texte de Jean-François Nadeau, paru le 16 décembre 2024 dans Le Devoir. Juste un peu avant la guerre, Gabrielle Roy séjournait à Londres. Ce jour-là, elle s'apprêtait à sortir pour marcher quand sa logeuse, Gladys, vint lui confier, discrètement, une lettre à poster. C'était la veille de l'anniversaire de Geoffrey, le mari de Gladys. Rien ne faisait plus plaisir à ce Geoffrey que de recevoir, au matin de son anniversaire, en même temps que son journal, une carte de vue qui avait transité par les postes de Sa Majesté. L'homme aimait voir le timbre oblitéré par le bureau de poste de Fulham. Le service postal, il l'éprouvait en quelque sorte comme la reconnaissance même de son existence par l'État. Il suffisait à Gabrielle Roy de déposer la carte dans une boîte aux lettres. Sur son chemin, elle en croisa quelques-unes, mais comme l'écrivaine n'était pas très loin du bureau de poste central de Fulham, elle se dit qu'après tout, ce n'était pas plus compliqué de s'y rendre afin de s'assurer que la lettre serait bel et bien distribuée dès le lendemain. Elle déposa donc finalement l'enveloppe adressée à Geoffrey au bureau de poste central de Fulham. En début de soirée, à son retour à la maison, l'écrivaine constata au bas de l'escalier que la lettre qu'elle avait confiée à la poste un peu plus tôt était déjà là. Elle n'y comprenait rien. Sa logeuse non plus. Qu'est-ce qui s'était passé? La logeuse, s'informant de ce que Gabrielle Roy avait fait exactement, lui reprocha d'être allée directement à la grande poste, plutôt qu'à une simple boîte aux lettres, comme elle le lui avait demandé. La fête de Geoffrey était gâchée, son bonheur fichu par ma faute, ou plutôt par celle de la redoutable efficacité de la poste de Sa Majesté, écrit Gabrielle Roy dans la détresse et l'enchantement. De quoi nourrir sa réflexion, disait-elle, devant la performance des postes canadiennes. Parfois, quand je suis 3 à 4 jours à attendre une lettre postée dans le quartier voisin du mien, à Québec, ou que l'unique livraison quotidienne du courrier est suspendue à cause d'une journée d'études, d'une grève perlée, ou parce que la route est glacée ou qu'il a neigé, je me prends à rêver de cette foudroyante poste de Fulham. Depuis cette époque, les postes ont changé, en partie sous la pression des messageries privées. Chacun sait que le nombre de lettres traitées a diminué et que celui des colis a augmenté. Mais est-il possible de faire encore société sans assurer qu'existe, au bénéfice de tous, une liaison efficace et contrôlée du courrier pour tous? Au fil de l'histoire, la poste a matérialisé l'existence des États. Ce n'est pas pour rien que ceux-ci, à travers les postes, trouvent encore à véhiculer l'expression de leur pouvoir à grand renfort de symboles imagés, comme je le raconte dans mon dernier livre. Les échanges de missives furent longtemps réservés à ceux qui avaient les moyens de tout s'offrir. Songez aux multiples billets d'amour qu'écrivaient chaque jour dans le 18e siècle des liaisons dangereuses, le terrible vicomte de Valmont. Il fallait bien les distribuer, ces lettres empoisonnées. Seule l'aristocratie avait les moyens de s'offrir autant de messagers. En Angleterre, la création du premier timbre-poste en 1840, le Penny Black, flanqué de l'effigie de la reine Victoria, marque un tournant. Désormais, la poste est accessible à tout venant. Elle offre le même service à tous, peu importe le statut social de chacun. Dans l'architecture des États modernes, malgré l'importance prise par Internet, la poste représente encore beaucoup plus que nous l'imaginons. Avez-vous remarqué de quoi nous nous plaignons le plus quand les postes font grève? des difficultés engendrées pour obtenir des passeports, des permis de conduire, des plaques d'immatriculation, des cartes d'assurance maladie, des résultats médicaux, des documents bancaires. Tout cela renvoie à des interactions essentielles avec l'État. Faire société nécessite de s'appuyer sur des moyens de communication communs, accessibles partout, y compris loin des grands centres. Ce qui a conduit le gouvernement fédéral, sans qu'il réfléchisse trop à sa responsabilité dans les causes de la crise actuelle, à imposer un retour au travail des postiers. Dans un quartier où j'ai mes habitudes, travaillait un facteur particulier. Il cheminait toute l'année vêtu d'un short. Lorsque la température plongeait en dessous de zéro, ses mollets ne s'activaient que davantage. Tout le monde le connaissait, et il connaissait tout le monde. Combien de fois a-t-il fermé la porte de l'un ou l'autre des appartements du voisinage restés malencontreusement ouverte, en vérifiant d'abord que tout était normal? Au-delà du courrier, ce facteur assurait, comme d'autres de ses collègues, une sorte d'assurance quartier bon marché. Est-ce là une singularité? Dans un autre quartier qui m'est devenu familier, la factrice connaît elle aussi très bien son monde. Elle a un bon mot pour chacun, s'informant de la vie des uns et des autres. L'an passé, elle s'est inquiétée d'un voisin âgé avec qui elle a l'habitude d'échanger. Quelque chose clochait, lui semblait-il. Elle avait eu raison de s'inquiéter puis d'intervenir. Le voisin connaissait des ennuis de santé. Cette fonction sociale des facteurs, même si elle existe, n'est pas reconnue ni institutionnalisée. Elle l'est désormais en France, où les postes offrent aussi de l'aide à domicile, de même que des produits bancaires, tout en prenant en compte, comme dans d'autres pays, que ce sont désormais les colis qui constituent la principale activité d'un transporteur public. La Poste canadienne pourrait-elle, pour l'avenir, être redéfinie et valorisée en s'inspirant d'exemples pareils? Il ne lui faudrait pas oublier, chemin faisant, qu'elle continue d'être un vecteur majeur d'affirmation de la grandeur de la souveraineté d'une société, même si des timbrés croient à tort qu'on pourrait s'en passer, au seul bénéfice de petits intérêts privés. C'était « Notre société des postes », un texte de Jean-François Nadeau, paru le 16 décembre 2024 dans Le Devoir.
La Meute de Jonathan, un texte de Patrick Lagacé, paru le 5 janvier 2025 dans La Presse. Sur une photo, on remarque le ballon de basket qui flotte vers le panier, d'abord. Puis, en y regardant de plus près, on voit un jeune homme, de dos, soulevé par un groupe de garçons, ses amis. Le ballon flotte au-dessus du groupe. Le jeune homme, soulevé par ses amis, a les bras à la verticale. On devine qu'il vient de lancer le ballon vers le panier. Il s'appelle Jonathan Dutille. Jonathan est atteint d'un cancer du cerveau. Stade 4, le stade ultime, celui duquel les chances de revenir sont minces. Jonathan, oui, est diminué par la maladie, cognitivement, physiquement. Le cancer peut isoler les malades. Or, c'est ici que la photo recèle une beauté inouïe, qu'elle incarne une solidarité tout aussi inouïe. Jonathan, malade, n'a jamais été seul dans la maladie. C'est Mireille Bruno, la directrice adjointe de l'école, qui m'a contactée pour me raconter la beauté et l'humanité qui entourent Jonathan depuis des mois, à l'école et hors de l'école, depuis l'annonce de son cancer. Quand Jonathan a commencé à perdre ses cheveux en octobre 2023, ses boys ont rasé les leurs. Sur 3 périodes de dîner à l'école, une vingtaine de jeunes sont passés sous le rasoir. Quand il a commencé à avoir de la difficulté à marcher, C'est une bande élargie d'une vingtaine d'adolescents dans leur école de la Rive-Sud qui se sont relayés sans relâche pour pousser son fauteuil roulant à l'école. Parce que Jonathan n'avait pas envie d'arrêter l'école. Et quand ses yeux et ses oreilles ont commencé à lâcher, parce que la tumeur pousse sur les nerfs optiques et auditifs, ses amis ont été ses yeux et ses oreilles en classe, lui expliquant ce que les profs disaient, lentement. J'ai parlé à Madame Bruno, j'ai parlé aux parents de Jonathan, Sonia Desbiens et Jean-François Dutille. J'ai parlé à quatre amis de Jonathan, Victor Gendron, Étienne Jourdain, Loïc Bouffard et Jacob Gosselin. Mireille, évoquant la photo dont je vous parlais en début de chronique, avant les fêtes, en marge d'un tournoi de basket, ils l'ont soulevée pour qu'il puisse faire des paniers, comme quand il jouait. Ils lui ont fait un album avec des photos, avec des messages de soutien. Sonia, il y a une meute qui s'est constituée autour de Jonathan. Ils aident le loup blessé, ils l'aiment. On sent que c'est naturel chez eux. Et c'est mutuel, le bien qu'ils se font, en prenant soin de leur ami, ils se font du bien. Jean-François renchérit. J'arrive chez Dario, un ami de Jonathan, où il est attendu pour un party. Écoute, j'ai pas le temps de mettre l'auto sur parc. Que ses amis sortent de chez Dario. Ils sont 15, 20. J'ai pas le temps de détacher ma ceinture, qu'ils sont déjà deux sur la banquette arrière pour le détacher et l'aider à sortir. Et quand la meute a appris qu'il n'y avait plus de traitement possible pour guérir Jonathan, ils ont écrit à Sonia et à Jean-François. Nous sommes réunis dans un local de l'école, on pleure, mais on ne va jamais le lâcher. Et ils ont tenu parole. Jean-François émet un souhait, à ce stade de l'entrevue, que la directrice adjointe, Mireille Bruno, avait elle aussi émis durant notre conversation. C'est pour tout ça qu'on veut que le spotlight soit sur les amis de Jonathan, pas sur la maladie de Jonathan. À travers l'écran du Zoom, Sonia m'a tendu des Kleenex. Ça faisait longtemps que je n'avais pas braillé en entrevue. Sonia, ils sont extraordinaires, mais j'ose dire que c'est parce qu'on attire ce qu'on est. Jonathan est un garçon extraordinaire. On sent que notre fils est entouré, aimé. Comme parent, c'est un beau cadeau. On sait qu'il laisse une trace. Jean-François, tu sais, l'école est là pour enseigner les maths, le français. En aidant Jonathan, ses amis apprennent des choses tellement plus grandes, comme la bienveillance, comme le service. Ils font croître leur maturité émotionnelle en s'occupant de Jonathan. Est-ce le rôle de l'école de faire ça? J'ose répondre, monsieur Dutille. C'est aussi à l'école qu'on apprend tout ça. J'ai parlé à Jonathan, qui dort beaucoup ces jours-ci, épuisé. La tête est toute là, même si l'élocution est difficile, même si ses parents lui répétaient lentement mes paroles, derrière l'écran. « Ses amis, dit-il, depuis un an, mais surtout depuis 3-4 mois, lui ont fait le plus grand bien. Il me change les idées, disait Jonathan. » Ils sont toujours prêts à m'écouter, à m'aider. Je les aime beaucoup. C'est important d'avoir des amis à qui je peux faire confiance. Samedi, c'était l'anniversaire de Jonathan Dutille. Et ce dimanche, il y aura une fête pour le 17e anniversaire de Jonathan. Comme dit Sonia, sa mère, il est ici, il est en vie, on profite de chaque instant. La famille sera là, aussi, au party. Jean-François, Sonia, bien sûr. Florence, sa grande sœur, la grande complice de Jonathan, y sera. Sera présente aussi toute cette belle meute d'amis qui, depuis des mois, n'a jamais lâché Jonathan. et c'est la grâce que je nous souhaite à tous pour 2025 d'être aussi bien entouré, appuyé et aimé que Jonathan l'est par sa meute d'amis. C'était La meute de Jonathan, un texte de Patrick Lagacé, paru le 5 janvier 2025 dans La Presse.
La forêt précoloniale du Québec. Un texte de Stéphane Gagné, paru dans la revue Quatre Temps au printemps 2021. Nos paysages ont radicalement changé depuis l'arrivée des colons européens. Voyage dans un passé pas si lointain. Dans la région du Haut-Saint-Laurent, qui occupe l'extrême sud-ouest de la province, plus de 200 ans d'exploitation agricole et forestière ont fait leur œuvre. Les forêts n'y occupent plus que 15 % du territoire. Les plus vieilles ont de 40 à 80 ans. La découverte d'une forêt ancienne, le boisé des Muirs, à la fin des années 1980, a donc été perçue comme un événement marquant pour les écologistes. Elle est considérée comme la forêt de l'époque précoloniale la mieux préservée du sud du Québec et a été découverte par hasard par des biologistes effectuant une recherche sur la succession forestière. Acquise en 1827 par Archibald Muir, on y trouve des arbres âgés de 250 à 300 ans. Sa composition a suscité toute une surprise, comme l'explique Jacques Brisson, professeur d'écologie à l'Institut de recherche en biologie végétale, IRBV, qui a participé à cette découverte. Elle ne correspondait pas à l'idée que l'on se faisait d'une forêt d'origine. On s'attendait à y trouver une érablière à carrier. Or, elle est plutôt dominée par l'érable à sucre, le hêtre à grandes feuilles, le tilleul d'Amérique et la pruche du Canada. Autre surprise, le diamètre modeste des troncs des arbres, entre 45 et 75 cm, ne concorde pas avec l'image que l'on se fait d'une forêt ancienne. Il s'explique par la présence d'un sous-bois très ombragé qui ralentit la croissance des arbres. Plongé dans les actes notariés. Cette découverte a été le point de départ d'une recherche de plus grande envergure sur la forêt précoloniale dans cette région. Sa pièce maîtresse, les actes notariés des années 1800 à 1880. C'est ainsi qu'au cours des années 1980, André Bouchard, professeur en écologie aujourd'hui décédé, a analysé environ 500 000 actes du sud du Québec pour en dénicher quelques centaines fournissant une bonne information sur les ventes de bois réalisées et les espèces d'arbres concernées. Son travail a fait ressortir la disparition de l'épinette noire dans cette région qui serait notamment due à l'assèchement des tourbières. D'autres essences ont connu une diminution importante comme le bouleau jaune, excellent comme bois de chauffage, le hêtre, le chêne blanc et la pruche. Selon Jacques Brisson, ces changements ont eu lieu en l'espace d'une génération, d'arbres qui s'étend de 25 à 50 ans, au début des années 1800. Jacques Brisson et André Bouchard se sont aussi intéressés à des témoignages de l'époque. Dans les années 1880, Robert Sellard, propriétaire du journal d'Huntingdon, The Canadian Gleaner, a en effet interrogé 300 personnes âgées parmi les premiers colons de la région afin de consigner leurs témoignages sur l'époque de la colonisation. L'ouvrage qui en a résulté est une source d'information unique. Les divers témoignages font notamment ressortir la présence de grands pins blancs et de magnifiques chênes dans la